Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Donc bonjour, bonjour Manuel Valls.
Rebonjour.
Le 7 mai dernier, dans une tribune que vous faisiez paraître dans Le Monde, vous disiez, en parlant de la nécessité de faire vivre l'esprit du 11 janvier, la lucidité n'empêche pas l'espoir. Ça pourrait être du Clémenceau, de la lucidité et de l'espoir. Il en faut sans doute à ce moment pour être un Premier ministre socialiste entre réformes chahutées dans l'éducation et la santé, projet de loi au forceps, le 49-3 Macron, désertion des rangs du PS par les militants à l'approche du Congrès socialiste début du mois de juin, ou bien encore front interne à votre parti. La majeure partie des tâches que vous entreprenez sont tout de même montrées du doigt, désignées, critiquées. Alors comment garder sa lucidité quand les propositions faites sont immanquablement remises en cause? Comment entretenir l'espoir et l'imposer aux analystes de leur temps, les penseurs, les intellectuels, les pseudos et les vrais, qui n'aperçoivent ni éclaircies ni accalmies? Et comment redonner confiance au-dessus de la politique et de cette classe réputée élitiste, déconnectée des réalités du terrain, qui, même dans ses extrêmes, se déchire pour des querelles internes qui n'engagent pas le quotidien des citoyens. Vous revenez de Cannes, Manuel Valls. Dans un instant, on parlera du gros des dossiers. Bien sûr, la question de la réforme du collège, la question des migrants dont il a été question, des questions d'économie. Brice Couturier, à 8h15, vous demandera au fond quelle est la gauche qui finira par gagner, celle à laquelle vous appartenez de cœur depuis bien longtemps, auprès de Michel Rocard, ou celle qui essaie de se faire entendre par une sorte de motion B au congrès du Parti Socialiste. Mais d'abord, nous sommes très contents, parce que c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice vient dans les studios de France Culture, donc un nouveau bienvenu, mais on ne seront pas pour autant forcément toujours très aimables. D'abord, pourquoi c'est pas la première fois qu'un ministre un Premier ministre allait à Cannes. Lionel Jospin avait monté les marches en l'an 2000 pour Vatel, et lui, il avait eu moins de pudeur, il était monté par le tapis rouge traditionnel avec Sylvain Agazinski, pas vous?
Non, j'ai pas voulu le faire parce que je suis sensible d'abord au symbole, et puis parce que les marches, c'est pour les artistes, pour les acteurs, pas pour les responsables politiques. Sauf la ministre de la Culture qui, bien sûr, a un rôle différent dans son lien avec le monde artistique et les créateurs.
Et qui peut-être a plus de glamour que vous, après-t-on, sur
le
tapis rouge.
Je vous confirme.
Manuel Valls, vous avez assisté, studieux, à la projection du Nanni Moretti, un cinéaste qui ne perd pas son latin, et puis dimanche matin, au film de Maïwan, dont vous avez déclaré qu'il était très ému, avant de vous exprimer sur un colloque, à l'occasion d'un colloque, sur le droit d'auteur. Mais dites, avez-vous été saisi par le syndrome de Stockholm, à voir tous ces artistes, intellectuels, cinéastes qui vous ont dit « Mais que fait la gauche avec le budget de la culture ?» Tac, vous avez déclaré « Mea culpa, on n'aurait jamais dû baisser le budget de la culture, ce fut une erreur. »
Non, ce n'est pas la première fois que je le dis. Là aussi, nous sommes bien sûr dans les symboles, mais notamment en matière de culture, les symboles ont leur importance et la sensibilité des créateurs, des artistes, doit toujours être prise en compte. Il ne suffit pas de rester à une forme.
C'est pas un peu tard?
Et moi, je suis Premier ministre depuis un an, et nous avons décidé, avec le président de la République, de redonner, de continuer à donner des moyens, mais de garder, de préserver ces moyens pour la création, pour le spectacle vivant. C'était notamment après la énième crise des intermittents, dont je crois et j'espère nous sommes en train de sortir. C'est important, pas seulement parce que c'est la gauche qui gouverne, mais parce que c'est la France, dans ce débat sur les droits d'auteur, c'est-à-dire au fond comment on préserve cette exception culturelle, ce qu'est profondément la civilisation européenne, au sens le plus beau du mot, comment on le préserve. C'est un vrai débat, pas seulement en France et en Europe. Donc la France, donc son gouvernement, doivent préserver les budgets de la culture, doivent soutenir les collectivités territoriales qui s'engagent aussi pour la culture.
Mais est-ce que vous allez traduire dans les faits, ça, là, très bientôt?
Mais encore dans 48 heures, avec Fleur Pellerin, nous allons signer plusieurs pactes avec plusieurs collectivités territoriales pour soutenir l'engagement de ces villes en faveur de la culture. Et ça se traduit, bien sûr, dans le budget. Ça se traduit par la réforme du régime des intermittents qui, je crois, va dans le bon sens. Donc oui, c'est important de garder ce message, même s'il faut évoluer, qu'il faut tenir compte de la révolution numérique, mais c'est essentiel.
Réforme des intermittents, on en a un peu parlé, c'est vrai que le dossier avance, mais notamment le 8 janvier, mais on sait que le 8 janvier, l'actualité était tout à fait autre.
Et les oui, mais j'ai l'occasion d'y revenir, de rencontrer l'ensemble des acteurs. Vous voyez, on avance. C'est-à-dire qu'on peut, réformer, partir du dialogue avec intelligence, et on peut avancer et faire avancer des dossiers qui jusqu'à maintenant paraissaient irréformables, si vous permettez cette expression.
Ça ne doit pas être facile de travailler avec vous, hein, parce que vous laissez quand même peu de marge et peu d'air à vos ministres de la Culture. Philippe Etty n'a pas duré très longtemps sous un autre gouvernement. Fleur Pellerin, pour l'instant, doit serrer les coudes. Qui sait ? Écoutez donc tout de même Aurélie Philippe Etty, ce sont nos amis de France Info qui l'ont interrogé hier à propos justement de cette question de politique d'austérité et de ses combats, elle, pour un meilleur budget de la culture. Aurélie Philippe Etty, au micro de Catherine Potier.
Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. Et moi, je me suis battue pendant 2 ans, pour 2 ans et demi, pour lutter contre cette baisse du budget, pour essayer d'expliquer que cette baisse du budget allait avoir des conséquences néfastes pour notre pays. Donc, je n'ai pas été écoutée, du moins jusqu'à l'arrivée de Manuel Valls comme Premier ministre. Je n'ai pas du tout été écoutée par Jean-Marc Ayrault, ni par François Hollande à l'époque, puisque le budget de la culture a baissé de 6% sur les 2 premières années, ce qui était du jamais vu, même sous la droite. On n'avait jamais osé baisser le budget de la culture de la sorte. Et malheureusement, même si Manuel Valls reconnaît cette erreur aujourd'hui, ce que je constate, c'est que l'austérité, elle continue pour les collectivités locales, qui doivent faire 3 milliards d'euros d'économies cette année. Et ça a un impact direct sur la culture, puisqu'il y a plus de 150 festivals qui vont être annulés parce que les collectivités ne peuvent plus les financer. Ce que je constate, c'est que quand l'armée, par exemple, fait sonner du clairon de la part d'un certain nombre de députés pour préserver son budget, eh bien l'armée est écoutée, on lui préserve son budget. Quand ce sont les gens du monde de la culture, qui pourtant font un travail essentiel sur le terrain auprès de tous nos concitoyens, notamment des jeunes, ils ne sont pas écoutés.
Voilà, Aurélie Bonny, Philippe Etty, au micro de Catherine Potier de France Info, Manuel Valls.
Ça faisait longtemps, je pense qu'on l'a pas entendu depuis longtemps, y compris sur France Culture, cette opposition totalement absurde entre le budget de la défense et celui de la culture. Moi, je suis pas là pour polémiquer avec Aurélie Philippe Etty. Ce qui me paraît important, c'est que nous préservions les budgets de la création, c'est que nous continuons à soutenir les collectivités territoriales. Elles peuvent faire le choix. Les collectivités territoriales ne sont pas obligées de saccager leur budget de la culture. Moi, je suis toujours élu local, conseiller municipal à Évry. À Évry, son agglomération, Francis Choix, qui est le maire et le président de l'agglomération, préserve, développe, dans un territoire qui n'est pas facile, avec des problèmes financiers, avec des problèmes sociaux, mais fait de la culture la priorité de ce territoire. Ça veut dire qu'on peut toujours faire...
La gauche a déçu sur ce dossier-là, ça va être difficile.
Mais ai-je dit autre chose hier ? Donc, nous sommes, au contraire, me semble-t-il, en train de reconquérir les cœurs, non pas par les discours, mais par les faits, le budget, les intermittents, notre engagement avec le président de la République sur la question des droits d'auteur, et avec une ministre, Fleur Pellerin, je n'ai pas réagi à votre remarque, qui a toutes les marges pour travailler, qui est talentueuse et qui travaille bien.
Nous sommes en compagnie, vous l'avez vu, de Frédéric Bétézeau, et je ne l'ai pas signalé. Bonjour Louison. Louison, qui fait des dessins à la radio, c'est notre spécialité à France Culture. Tout à l'heure, nous me dira quelle conclusion en dessin elle tire de ses premières minutes avec vous, Manuel Valls. Frédéric Bétézeau.
Oui, monsieur le Premier ministre, vous dites il ne s'agit pas de faire des discours, mais d'amener des faits en matière de culture. Le discours est important quand même. Vous faites en la matière une sorte de droit d'inventaire des premières années du quinquennat Hollande ?
Non, j'ai uniquement marqué un fait parce que je connais la déception, la réaction qu'il peut y avoir dans le monde de la culture que je connais bien, où il y a une sensibilité à la priorité. Si les artistes, les créateurs, les gens du théâtre, du cinéma, de la danse, des arts plastiques, non, ont le sentiment que ce n'est pas une priorité, notamment quand c'est la gauche qui gouverne, il y a forcément une déception.
Et vous le pensiez
tout,
à l'époque ?
Tout n'est pas argent. Je suis solidaire des décisions qui ont été prises. Je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour...
C'était notamment M. Cahuzac qui serrait la vis.
Je suis là. C'était son rôle comme ministre du budget. Je suis là pour tirer les conséquences de ce qui a pu être cette déception dans un pays qui fait beaucoup pour la culture. Il y a eu, rappelez-vous, il y a quelques mois, cette semaine extraordinaire, on a à la fois inauguré le musée Picasso restauré, la FIAC, la Fondation Vuitton. Quelques semaines après, on inaugurait la Philharmonie, c'était début janvier. Donc il se passe quand même beaucoup de choses, grâce à l'État, grâce aux collectivités territoriales, grâce aussi au mécénat, c'est-à-dire à l'argent privé, ça foisonne malgré tout. Regardez, à Paris, il y a les expositions Bonnard et Velázquez.
Attention, monsieur le Premier ministre, on va vous accuser de délaisser le patrimoine.
Non, et le patrimoine reste important, c'est la raison pour laquelle Fleur Pellerin prépare une loi importante qui sera discutée cet automne, notamment, pas seulement sur la création, mais notamment sur le patrimoine.
Frédéric Mettezot.
Ce que vous dites à propos du budget de la culture englobe forcément le budget de la communication. Il y a eu des erreurs commises pendant les deux premières années à propos de la gestion de l'audiovisuel public et de Radio France en particulier, qui sort d'une très longue grève.
Non, mais... Peut-être sans doute que la tutelle n'a pas été suffisamment attentive aux enjeux financiers. Mais maintenant, après notamment la grève que Radio France a connue, il faut, à travers le dialogue social, avancer et regarder vers l'avenir. Mais regardez, j'étais à Cannes pendant 24 heures. Il n'y a pas beaucoup de pays qui soutiennent ainsi le cinéma, et pas seulement le cinéma français, le cinéma européen. Le film de Moretti, Mia Madre, a eu aussi le soutien du CNC, de France Télévisions, de Arte plutôt, de la région Île-de-France qui investit 14 millions d'euros par an en faveur du cinéma. Nous soutenons aussi le cinéma qui vient de plus loin, de l'Afrique. Donc, moi je ne suis pas là pour critiquer seulement, je suis là aussi pour souligner ce qui va dans le bon sens et pour faire mieux, parce que ce lien avec le monde de la culture, et ce n'est pas uniquement encore une question de gauche, mais entre la France et la culture, ce qui est profondément notre identité, le débat avec les intellectuels, la place de la culture dans l'éducation, ça me paraît essentiel, ça fait partie, puisqu'on parle beaucoup de cela, de notre propre identité, à condition que cette identité soit ouverte, généreuse, forte, tournée vers les autres.
Vous étiez à la projection du film de Danny Moretti, vous vous êtes dit que c'était un traquenard de voir ce film dont qui relate en l'occurrence la vie, la fin de vie d'une femme qui n'a de cesse que de transmettre le latin à sa petite fille, avec cette phrase assez extraordinaire, le latin, on sait que ça sert à quelque chose, on ne sait plus vraiment pourquoi, mais ça sert à quelque chose. Et la vieille dame, elle dit, ben oui, ça sert à avoir un peu de logique au fond.
Excellente transition, mais d'abord, pour
merci, monsieur le Premier ministre.
Que ce soit les films de Moretti ou de Maïwenn, mon roi, ce sont quand même deux œuvres d'art qui font vibrer les émotions et qui explorent les sentiments humains d'une manière tout à fait extraordinaire. Et permettez-moi d'ailleurs de saluer d'une manière générale la créativité, la force, en pensant aux films de Maïwenn, du cinéma français et de grands acteurs comme Vincent Cassel ou Emmanuel Bercou, qui est aussi une belle réalisatrice.
Bon, mais est-ce que le film de Moretti répond aux questions, au fond, sur la question du latin aujourd'hui, la place du latin dans la société et dans la réforme du collège.
Mais comme le latin n'est pas supprimé dans les écoles, donc ça ne fait que renforcer l'idée qu'on doit continuer à enseigner le latin avec ce qu'il peut apporter, mais au plus grand nombre, et pas seulement à quelques-uns. Alors c'est un beau rappel.
Alors la réforme du collège, on le sait, fait quelques vagues tout de même. Demain, grande journée de mobilisation des enseignants du collège. Vous publiez une tribune dans Libération aujourd'hui. Pourquoi il faut la faire, cette réforme? Pourquoi elle doit se faire? Et bien justement, pourquoi elle doit se faire?
Mais parce qu'il y a un échec. Il y a un échec du collège. Il ne garantit plus aujourd'hui l'acquisition des fondamentaux pour tous les élèves. À la fin de l'école primaire, un élève sur huit ne maîtrise pas les compétences en français. Et à la fin du collège, c'est le double. Donc aujourd'hui, malheureusement, cela contribue à une école de plus en plus inégalitaire, où le parcours scolaire dépend de plus en plus du milieu social d'origine. Il y a aujourd'hui plus d'enfants ouvriers qui sont en échec scolaire qu'il y a 30 ans. Donc on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc il fallait cette réforme, dont le cœur, et je veux bien le souligner, ce n'est pas le débat sur le latin ou le grec, ou sur l'allemand, la ministre de l'Éducation nationale s'en est très bien expliqué il y a quelques jours sur votre antenne. Mais l'élément essentiel, c'est l'autonomie. Tous les élèves n'ont pas les mêmes difficultés. Tous les établissements non plus. Donc il nous fallait en tenir compte. Et le fait de permettre le travail en petits groupes, l'accompagnement personnalisé, l'enseignement pluridisciplinaire, cela donne une chance nouvelle au collège. Et surtout, ces nouvelles méthodes signifient, et là c'est une révolution, c'est un changement profond, parce qu'on en parle depuis des années, que chaque collège décidera de 20% de l'emploi du temps des élèves. Cette autonomie était attendue, et c'est de la confiance qu'on accorde ainsi, bien sûr aux principaux de collège, mais aux équipes pédagogiques. Donc c'est, je le crois profondément, une véritable révolution.
Alors,
que le collège
va connaître.
Alors,
expliquez-vous autant d'hostilité, Manuel Valls?
Parce que je pense que c'est difficile de réformer l'école. Qu'à chaque fois qu'on
parle de l'école...
Tout
court.
Oui, donc il faut réformer. Oui, mais l'école, parce qu'elle est au cœur de la construction républicaine, parce que depuis que Jules Ferry a construit l'école de la République, à chaque fois qu'on parle de l'école, il y a des débats. Mais peut-être parce qu'aussi derrière cela, il y a deux conceptions qui s'affrontent entre l'idée d'une école pour tous et une école seulement pour certains. J'étais frappé d'ailleurs par les propositions de Bruno Le Maire. Je ne sais pas s'il s'exprimait en son nom ou au nom de l'UMP, mais on voit bien qu'il y a là une autre conception d'une école qui, elle, est inégalitaire, qui ne donne pas les chances pour tous. Nous voulons, nous, élever le débat. Nous voulons élever le niveau pour tous les élèves. Donc, il faut réformer. Et au fond, hein, vous savez, le débat, il est assez simple, il est assez
Mais les classes bilingues, soit, trop élitistes.
Soit le changement, soit la réforme, soit le retour en arrière ou la restauration, qui aujourd'hui se traduisent par les échecs que j'ai rappelés.
Les classes bilingues étaient trop élitistes ?
Non, mais les classes bilingues ne concernent que 15% des élèves.
Et donc vous dites qu'on peut sacrifier 15% de bons élèves pour plutôt s'intéresser
à... Personne ne parle de sacrifier. Personne ne parle de sacrifier.
Elles disparaissent en
élèves.
Sixième, en tout cas.
Ceux qui ont commencé à apprendre une langue vivante en CP auront la possibilité, dès la sixième, d'avoir cette deuxième langue. Et puis, la langue vivante 2 sera possible à partir de la cinquième. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat absurde et caricatural. Là, à travers les langues, à travers le latin, à travers l'enseignement de l'histoire, mais là, c'est l'affaire des programmes. Au contraire, il s'agit d'élever le niveau par le haut, de donner davantage de chances aux élèves. Moi, je ne peux pas me satisfaire que les enfants de la ville dont je suis l'élu, je vous en parlais, Évry, aient moins de chances que d'autres. Ça n'est pas ma conception, pas seulement de mon engagement politique, mais ça n'est pas ma conception de l'école de la République.
Donc c'est une réforme de gauche.
C'est une réforme pour la France, et c'est bien sûr une réforme profondément de gauche.
Précisément.
Elle s'attaque d'abord aux inégalités. C'est quoi être de gauche? Nous y reviendrons tout à l'heure.
Nous y reviendrons tout à l'heure.
S'attaquer aux inégalités, et notamment les inégalités liées aux origines.
Rassurez-moi sur un point. Après tout, le 13 janvier, on se souvient que dans votre discours à l'hommage aux victimes des attentats, vous avez déclaré, je vous cite, « La France, c'est l'esprit des Lumières. » Et patatras, on apprend que l'enseignement de l'esprit des Lumières est facultatif.
Mais... Et on nous explique même qu'on va détruire l'enseignement de l'histoire et la chronologie, alors qu'au contraire, la réforme des programmes, qui va être revue, puisque de toute façon, il y a une consultation, une concertation qui est en cours avec les enseignements. Avec les enseignants, avec les professeurs, et de toute façon, la ministre l'a dit, il y aura un certain nombre d'aspects, pas seulement le jargon, mais certains nombres d'aspects qui vont être vus. Elle a rencontré elle-même de nombreux intellectuels, je pense par exemple à Pierre Nora, donc il faut donner du sens à cet enseignement. Mais au contraire, nous allons renforcer par exemple la chronologie de l'histoire. On nous a même expliqué que l'islam, l'enseignement de l'islam allait être obligatoire au détriment de celui du christianisme. Tout ça, ce sont des mensonges, des contre-vérités.
Et donc, vous montez au feu pour les dénouer, ces mensonges, les dénoncer?
Mais c'est mon rôle d'abord pour défendre cette réforme, parce que je la crois utile, même si elle va bien sûr s'inscrire dans le temps, pour défendre l'école de la République, pour saluer le travail et l'engagement extraordinaire des enseignants. Nous avons rétabli la formation des enseignants, elle avait été saccagée par la majorité précédente. Nous créons 60 000 postes d'enseignants, c'était un des engagements de François Hollande pour ce quinquennat. Nous accompagnons la réforme du collège par la création de 4 000 postes supplémentaires. Le budget de l'école est redevenu le premier budget de la nation. Donc l'école est de nouveau la priorité. Mais pour s'attaquer à ces inégalités, il ne faut pas uniquement des moyens, il faut aussi des réformes de fond, des réformes pédagogique.
Alors, une petite question, attention à la pendule, Frédéric Métezeau.
Question de méthode, monsieur le Premier ministre. Cette réforme, c'est celle du président de la République, c'est la vôtre, c'est celle de la ministre, ou c'est celle du Conseil supérieur des programmes qui est créé par la loi Payon de 2013 et qui est une instance indépendante? Elle fait sa réforme et puis elle laisse les politiques la défendre et tant pis si ça ne plaît pas.
Manuel Valls.
L'école, c'est la priorité, puisque la jeunesse, c'est la priorité.
Est-ce que vous avez la main
de François Hollande? Mais nous avons la main, elle est incarnée par ailleurs par Najat Vallaud-Belkacem, qui est la première ministre femme de l'éducation nationale, qui est elle-même issue de cette école républicaine, laïque, qui doit permettre à chacun de s'élever, et elle l'incarne, elle la porte avec courage.
Et ce Conseil supérieur, il ne vous a pas laissé un cadeau empoisonné ?
Il y a la réforme du collège, qui est en marche, et il y a ensuite la réforme des programmes, qui est en effet issue de la loi sur la refondation de l'école, qui avait été portée par Vincent Peillon, qui est indépendante, et à la fin de cette concertation avec les enseignants. La ministre tira un certain nombre de conclusions. Elle a rencontré, je vous le disais il y a un instant, de nombreux intellectuels, de nombreux historiens, parce que je pense qu'il faut donner notamment du sens au programme, rétablir les hiérarchies et clarifier ce qui ne peut pas l'être. Mais nous sommes là dans un débat, et ce débat devrait être beaucoup plus apaisé, puisqu'il s'agit encore une fois de l'avenir de nos enfants, qu'il ne s'agit pas de prendre en otage une nouvelle fois le débat sur l'école.
Manuel Valls, invité des matins de France Culture, on vous retrouve tout à l'heure à 8h15 avec la chronique de Brice Couturier. Vous restez bien sûr pendant le journal. Brice, que voulez-vous poser comme question au Premier ministre ?
Il aura un quart d'heure pour y réfléchir. Avez-vous remarqué, monsieur le Premier ministre, que le Labour, qui vient de perdre les élections en Grande-Bretagne, avait gagné des voix dans les grandes métropoles comme Greater London ou Greater Manchester, mais mordu la poussière dans ses bastions ouvriers, au profit souvent des indépendantistes de l'UKIP ? Alors, comment appréciez-vous la montée en force des politiques identitaires qu'on observe en Écosse, en Catalogne, que vous connaissez bien? Peut-elle se substituer un jour au clivage droite-gauche?
Et un dessin de Louison. Alors, Louison?
Alors, je suis revenue plutôt sur... c'était dur parce que tous les sujets sont bons. Sur cette manifestation de demain, sur la crainte du latin, sur toutes ces choses qui créent des sortes de fantasmes complètement déraisonnables, dont je suis moi-même un peu victime, ouais, sur Twitter. Donc, que va devenir le latin? Le latin, c'est cette langue que parlent les méchants dans Astérix. Je pense que ça sera
pas. Et le dessin part bien sûr sur Twitter, le compte Twitter des matins, et le site franceculture.fr. Les matins, il est 8h.